Il est 19h09 sur les ondes de Radio Canus, et ça est précis, et vous vous dites, mais qu'est-ce que fait le Canu Info? Ben le Canu Info, il arrive.
Prenons une ville, Lyon.
Vous êtes à l'écoute de Radio Canus 102.2 FM et c'est le Canu Info du vendredi. De quoi on va parler ce soir, les camarades?
Eh bien, on va commencer au niveau local à vous parler du collectif Jamais Sans Toi et de l'actualité des personnes et des enfants hébergés à Lyon.
Ensuite, il y aura un reportage sur les mineurs non accompagnés à la Croix-Rousse.
On continuera en vous parlant de la grève nationale du travail social du 7 décembre à venir.
On aura également une petite partie sur la CAF qui prive d'accès à son site une partie de ses allocataires étrangers.
Et puis on va vous parler de langage et d'imaginaire de Yel aux évacuations.
Après, à l'international, on parlera de Boubi Kotick, un PDG qui est accusé de harcèlement sexuel.
Et comme chaque semaine, on finira avec l'agenda et bien sûr le ACAB.
Bonne écoute sur Radio Canu.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Vous voyez bien, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
Ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous bougez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes, en chantant résiste.
Et juste pour vous dire qu'à la fin de ce jingle, on entend la voix de Gemma. Et qu'on est content d'entendre la voix de Gemma. Elle est morte ce mardi, mais c'est quelqu'un qui va rester cher à nos corps et à nos cœurs. Et on continuera à passer sa voix dans le Canu Info du vendredi et ailleurs à Radio Canu.
Et à Lyon, ce sont 123 enfants qui sont sans toit. Et ici, on va relayer un appel à manifester demain, donc le samedi 20 novembre, pour la journée des droits de l'enfant. Donc, Jamais Sans Toit, qui recense donc 123 enfants dans la métropole lyonnaise et appelle à une manifestation à 14h, place des Terreaux, et à des goûters solidaires jeudi, vendredi et mardi. Le 20 novembre sera célébré le 32e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France en 1989. Pourtant, chaque jour dans notre pays, ces droits élémentaires comme le droit au logement, le droit à l'éducation ou le droit à une vie familiale sont bafoués et l'intérêt supérieur de l'enfant est méprisé. Lorsque la ministre du Logement, Madame Emmanuelle Wargon, a annoncé début septembre une programmation pluriannuelle des places d'hébergement d'urgence qui marquerait la fin de la gestion au thermomètre, il y avait tout lieu de se réjouir de ce pas supplémentaire vers la mise en œuvre de la politique du logement d'abord. Certes, les familles mises à l'abri à la faveur du plan d'urgence exceptionnel établi lors de la crise sanitaire ont l'assurance d'être hébergées jusqu'en mars 2022. Mais faute de places supplémentaires créées cet hiver par l'État, Ce sont des dizaines de familles qui vont se retrouver sans solution. Au sein de l'agglomération lyonnaise, le collectif Jamais sans toit recense à ce jour 54 familles sans abri, ce qui constitue 123 enfants, qui n'ont quasiment aucune perspective de mise à l'abri cet hiver. Parmi elles, nombre de familles demandeuses d'asile qui, selon les dispositions de la Convention de Genève, devraient être hébergées au CADA, en CADA par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI, et qui restent à la rue sans qu'aucune solution ne leur soit proposée. Quant au droit élémentaire à l'éducation, il est régulièrement bafoué par l'éducation nationale. Son ministre, Jean-Michel Blanquer, toujours prompt à vanter les mérites d'une école ouverte, au cœur de la crise sanitaire, ferme la porte de celle-ci à des centaines d'enfants nouvellement arrivés en France, qui perdent des semaines, parfois des mois de classe, en attendant une place à l'école ou en formation. Du côté de la métropole de Lyon, le tableau n'est pas plus glorieux. En annonçant qu'elle n'agira pas au-delà de son champ de compétences, en ciblant exclusivement les femmes enceintes de plus de 8 mois et les femmes isolées avec enfants de moins de 3 ans, elle laisse les enfants plus grands ou les pères à la rue. On fait mieux en matière de respect du droit à une vie familiale. À ce titre, l'engagement de son président, M. Bruno Bernard, ne se montre pas à la hauteur de l'indignation qu'il a exprimée à plusieurs reprises quant à la situation des enfants sans toit sur le territoire dont il a la charge. Il fait même en la matière moins bien que son prédécesseur qui avait assumé la mise à l'abri de dizaines de familles lors du premier confinement. Sans parler des mineurs non accompagnés qui, en attendant une prise en charge de la métropole comme le prévoit la loi, survivent dans des squats ou dans des campements de fortune. La seule mesure concrète qui a été prise lors de la semaine de l'hospitalité, organisée conjointement au mois d'octobre par la métropole et les villes de Lyon et de Villeurbanne, est le plan « Zéro enfant à la rue » annoncé par Grégory Doucet et son adjointe à la solidarité, Sandrine Runel. Ainsi, les enfants scolarisés dans les établissements de la ville de Lyon peuvent-ils fonder un espoir raisonnable de passer l'hiver avec un toit au-dessus de la tête ? Gageons que les logements mis à disposition seront à la mesure de cette ambition. Assumer une compétence qui n'est pas de son ressort lorsque ni l'État ni la métropole ne jouent leur rôle, cela pourrait inspirer d'autres communes de l'agglomération. Notamment la ville de Vaux-en-Velin qui compte 17 enfants sans toit et dont la maire, Madame Geoffrey, est réputée pour sa politique répressive et n'hésite jamais à dépêcher la police municipale lorsque se manifeste le moindre geste de solidarité. Pourtant, cette année, comme tous les ans depuis 2014, à l'exception de l'hiver dernier, crise sanitaire oblige, c'est la générosité citoyenne qui pallie les manquements des institutions. En attendant des jours meilleurs, les établissements scolaires servent une fois encore d'abri temporaire aux familles sans toit. Depuis la rentrée scolaire, les écoles Commandant Arnaud dans le 4e, Gilbert Dru dans le 7e, Louis Pasteur et Philibert Delorme dans le 8e, Michel Servet dans le 1er, et bientôt Audrey Hepburn dans le 9e, ou d'autres, seront occupés et permettront à des dizaines d'enfants, et c'est le cas aujourd'hui pour 21 d'entre eux, ainsi que leurs parents, d'éviter la rue. Mais il est désolant de constater que les pouvoirs publics, donc l'État, la métropole et la ville, ne parviennent pas à travailler en bonne intelligence et se déchargent de leurs responsabilités sur les seules citoyennes et citoyens. La manifestation organisée conjointement demain à 14h, enfin samedi 20 novembre qui est demain, à 14h par le collectif Jamais sans toit et par le réseau Éducation sans frontières, sera l'occasion de réaffirmer avec force le caractère inconditionnel du droit à l'hébergement d'urgence consacré par la loi, de rappeler l'intérêt supérieur de l'enfant et d'interpeller les pouvoirs publics sur ces situations intolérables. Une audience a été demandée à Pascal Maillot, préfet du Rhône. Un toit, c'est un droit. Faisons respecter la loi.
Et tout de suite, notre micro était dans les pentes de la Croix-Rousse.
Nous sommes tous parents de gamins qui sont à l'école dans la même école, aux tables claudiennes. Quand on a vu qu'il y avait 30 mineurs qui dormaient dehors, on a trouvé ça anormal. Donc on s'est réunis pour essayer de les aider.
Et bien là, ils sont dans la montée de la Grande Côte, devant le relais d'assistantes maternelles, donc c'est-à-dire quasiment en centre-ville, hein, en centre-ville du premier. Et ben là, il y a une vingtaine de tentes où il y a un ou deux mineurs non accompagnés qui dorment à l'intérieur. Et ils essayent tant bien que mal de vivre en se faisant à manger du riz, du poulet qu'on essaye d'amener un peu tout le temps. Tout ça, ça demande un peu d'investissement, un peu de sous aussi. Donc on organise aujourd'hui des dimanches solidaires. Et ces dimanches solidaires, donc ça sera tous les dimanches. On commence cette semaine. Donc voilà. Et le but, c'est de récupérer suffisamment d'argent. Donc on a besoin d'entre 35 et 50 balles par jour à peu près pour faire en sorte qu'ils puissent manger matin, midi et soir.
Alors, ils sont installés depuis début août. Donc là, ils sont 32 en ce moment. Ils viennent d'Afrique de l'Ouest, principalement. Côte d'Ivoire, Gambie, Sierra Leone.
Nous sommes des migrants mineurs, comme vous voyez la situation qui est là. Depuis un bon moment, nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes dans la rue.
Oh, je suis arrivé à Lyon, ça fait presque 2 mois et quelques que je suis là. Je dors dans la rue, sous cette tente-là, avec cette fraîcheur, donc c'est pas facile. Nous sommes passés par le Maroc et puis on est venu en France. On est parti au forum réfugié. On nous a libérés là-bas sans nous donner un abri. Après, on est venu ici parce qu'on avait des amis qui dormaient ici. Du coup, on est venu aussi, on nous a donné des tentes, on les a installées. Donc on est là, on dort ici, mais ce n'est pas facile.
Et là-dedans, il fait beaucoup froid. Et puis on a des bois qu'on met en bas pour quand il y a la pluie, pour ne pas que la pluie nous mouille. Donc c'est ce que vous voyez. Voilà, nous ne sommes pas dans la maison, nous sommes livrés dans la rue comme ça, avec le vent, avec tous les passants qui passent nous voient.
Bah, en gros, ils sont dans un statut complètement hybride. Ils ont été refusés comme mineurs au forum juste à côté. Donc ça veut dire qu'il faut aller engager une procédure vis-à-vis du juge des enfants. Et ça prend entre 4-5 mois pour passer devant le juge. Sachant que les jeunes qui passent devant le juge des enfants, 85% sont reconnus comme mineurs. Et donc à partir de ce moment-là, sont pris en charge par la métropole.
Et nous sommes abandonnés à nous-mêmes, c'est inhumain, ce n'est pas normal pour des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui viennent dans un pays étranger, qui ne connaissent personne. Actuellement, on a du mal même à dormir. Il y a certaines personnes ici qui ont certaines maladies aussi. Et j'espère qu'à la longue aussi, ça peut causer des problèmes.
Moi, je suis malade depuis l'enfance, j'avais la bronchite pendant la nuit, je tousse beaucoup. Comme hier, je n'ai pas pu dormir, j'ai dormi dans les alentours de 4h à 5h du matin. Vous voyez, nous ne sommes pas habitués à cette fraîcheur. À chaque fois qu'on passe la nuit ici, nous souffrons beaucoup, beaucoup même.
Vous vous débrouillez comment pour faire manger entre vous? Vous êtes une trentaine là?
Oui, nous sommes une trentaine. On se débrouille. Des fois, ceux qui sont disponibles préparent. On s'entraide quand même. Il y a certains qui lavent les bols, il y a certains qui préparent. Et puis il y a certains qui cherchent de l'eau. Les associations nous amènent à manger et puis on prépare ici.
On n'a pas des endroits vraiment pour nous doucher. Il y a un seul endroit qui est un peu au moins, je peux dire au moins à 5 km d'ici. C'est un terrain. Les jours ouvrables, c'est de 18h à 19h. Après ça, on ferme. Si tu viens après ça, tu ne peux plus te laver. Donc souvent, il y a d'autres qui font 3 jours, 4, même une semaine, on ne peut pas se laver. L'endroit où nous sommes, normalement, c'est des humains ne doivent pas vivre ici comme ça. On a juste besoin d'un toit, on a juste besoin d'aller à l'école, c'est tout ce que nous demandons.
Il y a 3 ans, il me semble, je crois que c'était, ouais, c'est ça, c'était l'hiver, il y a 3 ans, il y avait déjà des mineurs qui avaient sorti des tentes ici, et puis des personnes solidaires du quartier, d'ailleurs, avaient ouvert un collège abandonné sur le plateau. Est-ce que ça, c'est des solutions auxquelles vous pensez aussi?
Ouais, bien évidemment. En fait, là, on est au mois de novembre. Il commence à faire pas mal froid. Et c'est évidemment des choses qu'on réfléchit très fortement pour essayer de trouver un endroit au moins un peu digne, un peu en dur, quoi, dans lequel, pour nous, en tout cas, citoyens, et devant un truc qui nous ressemble à quelque chose d'invivable, en fait, on essaie de trouver des solutions un peu plus dignes que juste vivre dans des tentes quand il va commencer à geler le matin, quoi. Donc, voilà.
On veut rester en France, au moins faire un métier et puis étudier. C'est notre rêve, mais en fait, notre rêve, je pense que ça s'est transformé en cauchemar parce que la façon dont nous vivons ici, c'est extrêmement difficile. On veut juste que l'État nous aide à avoir où dormir et puis faire nos formations et puis c'est tout. Moi, j'aimerais faire l'électricité parce que déjà au pays, j'ai étudié un peu.
Bah, moi, j'aimerais faire la pâtisserie.
Et d'ailleurs, les soutiens donc des mineurs non accompagnés de la Croix-Rousse appellent à une mobilisation demain, samedi 20 novembre à 10h, au coin de la montée de la Grande Côte et de la rue Néret, devant le CMAE.
Tout à fait, demain 10h donc. Et tant qu'on est dans l'actualité locale, pour celles et ceux qui passent par la place du pont à la Guillotière, vous aurez sans doute remarqué, comme les médias locaux qui en font leur beurre, qu'il y a beaucoup de flics en ce moment. Un texte est paru il y a quelques minutes sur Rébellion. On est premier sur l'info juste après Rébellion. Donc. Et donc je vais vous donner à lire rapidement. Depuis plusieurs semaines, une grande agitation médiatique autour de notre quartier a amené, comme c'est l'usage, une réaction politique policière bien éloignée de la réalité du terrain, mais qui vise à satisfaire un électorat réactionnaire biberonné aux discours xénophobes et haineux auxquels les plateaux télé nous ont habitués. Depuis, la place du pont est en état de siège. Pas de flics dans nos quartiers. Nous devons vivre avec des camions de CRS et une place vide. La préfecture n'a d'autre réponse à la misère que la répression. Cette grande opération de police est un bon prétexte à l'arrestation de sans-papiers qui n'ont d'autre choix que de recourir au sous-emploi pour survivre. Les vendeurs de rue ne sont pas des criminels. Ne pas avoir de papier n'est pas un crime. Nous voulons un quartier ouvert, populaire et solidaire. Nous souhaitons en chasser la misère par celles et ceux qui la subissent. La place du pont ne doit pas être l'instrument de discours xénophobes, politiques, de haine et de racisme, et elle ne doit pas servir les ambitions électorales des unes et des uns et des autres. Pas de flics dans nos quartiers, un logement, des papiers et la satisfaction des besoins de chacun pour lutter contre la misère.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et après ce petit passage direct, on va être dans une temporalité tout autre pour vous parler de la grève du travail social qui aura lieu le 7 décembre. Alors pourquoi on en parle ? Déjà parce que c'est une grève et que les grèves en général c'est quand même plutôt chouette et qu'en plus il s'agit d'une grève nationale de tout le travail social. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le travail social, à la fois, ça paraît être quelque chose d'assez unitaire comme ça, mais finalement, il y a des réalités territoriales qui sont très diverses, puisque souvent, il y a des délégations qui sont faites aux ARS ou aux départements, et par ailleurs, il y a des secteurs assez différents qui vont de la précarité à l'aide sociale à l'enfance en passant par le handicap. Du coup, là, c'est vraiment une grève pour toutes et tous, quel que soit le secteur, y compris les étudiants sont invités à venir. Ça, c'est organisé par la Coordination nationale du travail social en lutte, qui est une volonté de certains, certaines, et qui arrive à mobiliser à travers des collectifs et des syndicats, justement dans un but d'unification du travail social qui a beaucoup de mal à se faire entendre. Vous pourrez retrouver, je crois qu'ils ont une page Facebook, malheureusement il n'y a pas d'informations de leur part sur des médias libres, mais en tout cas ils ont une page Facebook qui peut être consultée. Alors cette grève, bah oui, mais alors pourquoi ? Et bien pourquoi ? Parce qu'il y a par exemple des salaires qui sont gelés depuis 20 ans dans le travail social. Alors très très récemment, il y a eu une augmentation du point d'indice. Alors on s'est dit, waouh, super, on va avoir plein de sous. Bon, finalement, on nous a filé 2 centimes par mois. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose à la vie des travailleurs et des travailleuses sociales. Par ailleurs, il y a des volontés de changement et de fusion des conventions collectives, mais par le patronat. Du coup, on a envie de fusionner les conventions collectives pour enlever tous les avantages et évidemment garder les inconvénients. Face aux revendications syndicales, le patronat a dit « Ah, bah alors peut-être qu'on pourrait faire une espèce de ségur et vous filer 200 balles et en échange, et bah finalement, tous les autres acquis, vous vous asseyez dessus. » Donc évidemment, il faut des revalorisations de salaire, mais il faut aussi une amélioration des conditions de travail. Parce qu'on en parle beaucoup moins, et si le milieu sanitaire souffre beaucoup et a beaucoup de mal à recruter, c'est aussi le cas du travail social, où aujourd'hui les postes ne sont plus pourvus, puisque malheureusement plus personne ne veut faire du travail social, en tout cas, parce que malheureusement les conditions de travail sont vraiment de plus en plus précaires. Donc on se retrouve en plus avec évidemment du personnel qui manque, donc des collègues qui souffrent de plus en plus, etc. Vous connaissez un peu le cercle vicieux. Par ailleurs, il y a aussi une revendication, c'est la fin de l'utilisation des stagiaires comme salariés, qui a été très très largement utilisée pendant le Covid, là aussi à l'image du monde sanitaire, où finalement, bah, les stagiaires, ils se rebellent pas trop, parce que quand même, ils sont à l'école, ils ont besoin de valider leur stage, et on les fait bosser comme des salariés, à ceci près que, bah, on les paye pas, donc c'est plutôt pratique. Il y a aussi la revendication de la fin du charity business. Alors le charity business, c'est un petit peu bizarre, c'est ces espèces de patrons privés qui sont pas des associations forcément à but non lucratif et qui finalement viennent s'emparer du social comme si c'était un marché. Et d'ailleurs un marché, ça le devient. On peut penser aux gros acteurs de ce genre de trucs, genre Habitat Humanisme évidemment et Adoma que tout le monde je pense connaît. Et enfin, il y a des revendications sur la fin de la précarisation des projets, c'est-à-dire qu'avant, pour le travail social, on disait « Ah, peut-être c'est un travail qui s'inscrit dans la durée, peut-être il faudrait laisser le temps aux choses de se faire, mais aujourd'hui, plus personne ne veut s'engager pour payer, donc finalement, on n'a que des projets qui sont là à court terme, donc il y a des financements pour 3 ans, mais 3 ans, par exemple, dans l'accompagnement, on pourrait imaginer d'une personne en situation de handicap. Selon son handicap, ça peut être très très long. Et finalement, tout le monde est engagé en CDD, donc tout le monde est précarisé, donc personne ne râle. Et évidemment, ça arrange bien le patronat et évidemment le gouvernement, hein, qui, ne l'oublions pas, est le principal financeur, en tout cas l'État est le principal financeur, et du coup, tout ça l'arrange bien. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une grève le 7 décembre, c'est pour toutes et toutes. Je dirais que les travailleurs sociaux sont les bienvenus, mais tous les soutiens sont aussi les bienvenus. Et en vue de préparer ça, il y a une réunion le 24 novembre à la salle Moissonnier, donc à la Bourse du Travail, à l'appel de la CGT et de Sud. Et tout le monde est évidemment bienvenu à ces mouvements-là.
Et ouais, on écoute de l'électro-funk sur les ondes de Radio Canus. Et pourtant, le Canu Info, c'est Robot in Disguise de DJ Got a Gun. Mauvais accent. Mauvais accent.
Mais oui, mais heureusement qu'on vous passe de la musique funky parce que nos services sociaux sont beaucoup moins funky. Et c'est ce que nous rappelle encore cette semaine Mediapart. On a pu trouver un article qui nous dit que la CAF prive d'accès à son site une partie de ses allocataires étrangers. Alors, comment ça se fait ? Un changement des modalités d'accès au site de la Caisse d'allocation familiale empêche les étrangers titulaires d'un numéro de sécurité sociale provisoire d'y effectuer des démarches. Ça concerne quand même 68 000 allocataires. Alors évidemment, en apparence, il ne s'agit que d'un changement technique. En réalité, la modification des modalités d'accès au site de la CAF depuis le 9 octobre génère de nouveaux problèmes. En effet, pour accéder à son compte dans la nouvelle interface, il faut inscrire son identifiant, son mot de passe et désormais son numéro de sécurité sociale. Vous me direz, bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Sauf que les numéros, seuls les numéros commençant par 1 ou 2 sont reconnus. Or, les détenteurs et détentrices d'un numéro provisoire, ils commencent par 7 ou 8. Et ces personnes, c'est soit des personnes étrangères, soit des travailleurs ou des travailleuses étrangers ou réfugiés. Et donc ces personnes-là, elles peuvent plus se connecter. Ce qui peut engendrer des pertes de droits concernant le RSA, les aides au logement ou la prime de naissance ou de Noël. Cela, le temps que la CPAM ou l'OFPRA pour les réfugiés leur délivre un numéro définitif et ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quand même 68 000 personnes qui sont concernées. La CAF a entrepris de les aviser par courrier pour leur donner une parade et leur demander de se rapprocher de leur caisse. On se rend bien compte, hein, quand on a besoin des minima sociaux, en tout cas quand on vit avec, que quelques semaines ou quelques mois, c'est pas rien, et notamment qu'on peut perdre ses droits quand même. Donc après les bugs en série ou la fuite de données, le site de la CAF complique de nouveau la vie de ses usagers et de ses usagères. Concrètement, les gens concernés n'arrivent pas à accéder à leur espace CAF Connect car le numéro n'est pas reconnu, ni aux autres administrations comme Pôle emploi. Donc l'allocataire, en se rapprochant de sa CAF, peut obtenir un numéro provisoire, le NIR, qui débute, lui, par 1 ou 2. Mais encore déjà, faut-il le savoir. Donc vous n'arrivez pas à vous connecter au site, vous pouvez perdre vos droits. Si vous avez cette information, vous dites « je vais me rapprocher de ma CAF pour essayer de changer de numéro ». Mais alors là, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il faut rentrer en contact avec la CAF et c'est vraiment pas facile. Certaines personnes ne pourront pas accéder au service en ligne dans l'immédiat, comme les demandeurs et les demandeurs d'asile. Donc ça marche pas pour tout le monde le fait de faire ce numéro provisoire. La CAF confirme l'existence de ce problème et explique, alors là je vous cite la CAF, que les identifiants provisoires attribués par les caisses primaires d'assurance maladie permettent à celle-ci de gérer les droits de l'assurance maladie de personnes dont la situation est en cours de régularisation. Ces identifiants sont donc internes et ne peuvent être utilisés par les autres organismes de protection sociale. D'où la refonte du site, qui a été conçue pour simplifier la consultation de l'espace personnel, avec un numéro connu par tous et toutes, qui permet d'utiliser France Connect. Vous voyez ce fameux service que peut-être on vous a déjà demandé de vous inscrire dessus, vous pouvez aller soit sur vos assurances maladie, soit enfin, vos impôts, tout ce que vous voulez. Donc la CAF assure que le temps que le NIR, donc le numéro de sécurité sociale, soit délivré, un numéro de sécurité sociale d'attente peut être attribué par la CAF en prenant rendez-vous via le site, lequel est plus ou moins clair. En attendant, celles et ceux qui sont déjà allocataires percevront toujours leurs aides. Ça, c'est quand même cool. Il est important de préciser que dans l'attente donc de ce NIR, ces personnes ne peuvent provisoirement pas accéder à leur espace personnel, mais que leur aide continue à leur être versée. Donc ça, on imagine que ça marche que pour les aides qui n'ont pas besoin d'être réactualisées, soit de manière mensuelle, soit tous les 3 mois. L'organisme précise aussi que des espaces numériques sont présents dans presque toutes les agences d'accueil et qu'ainsi, les moins à l'aise avec l'outil numérique ont accès à des ordinateurs et peuvent être accompagnés. Mais je pense que quand même la CAF, elle oublie de préciser que certains espaces ne sont plus accessibles pour des raisons sanitaires, quand les cases sont ouvertes et quand on peut y aller sans rendez-vous, ce qui est quand même un gros foutage de gueule d'expliquer qu'ils mettent en place un véritable soutien numérique et des espaces ouverts dans leurs locaux pour pouvoir pallier à cette dématérialisation.
Ils disent que ça fonctionne pas sur Internet et donc ils conseillent aux gens de se rendre à l'espace numérique pour que ça fonctionne pas, mais à la CAF peut-être.
Et de fait, voilà, tout est compliqué. Hein. Si les gens ne sont pas accompagnés par souvent un travailleur, une travailleuse sociale ou un proche qui n'hésite pas à chercher ou à contourner le truc, je pense, enfin en tout cas, il y a plein de gens de la CAF qui disent qu'ils pensent que c'est très difficile et que du coup, les personnes concrètement passent à côté de leurs droits car les demandes de prestations sociales ne sont pas rétroactives. Et ça, on peut aussi le préciser, du coup, on n'a pas accès et donc on perd des semaines. semaines, voire des mois d'aide auxquelles on a droit. De même que résoudre le blocage en déposant des documents en version papier n'est pas une option, puisque cette démarche reste très longue, au moins 3 semaines, quand elle reste possible. Voilà, donc de son côté, Rudy Desrumiers, qui est secrétaire général CGT à la CAF du Nord, considère que cette impossibilité de se connecter facilement entrave les droits des bénéficiaires et démontre encore les difficultés posées par le tout numérique. Donc cette personne, Rudy, elle nous dit « On rajoute de la précarité à la précarité. Comment expliquer aux personnes déjà dans des situations délicates qu'elles ne peuvent obtenir le RSA ou gérer un complément de mode de garde ? Et parfois, il n'est même pas possible de déposer un dossier papier. C'est là qu'on voit les limites de la dématérialisation des services. » On ne peut pas aller plus loin que lui. On voit vraiment l'absurdité de la dématérialisation et la dangerosité de cette dématérialisation des services publics. Donc ce casse-tête, comme on vous l'a dit, ne s'arrête pas à la CAF, puisque certains usagers et usagères se rendent à la CPAM pour essayer d'obtenir un numéro définitif et se sortir de ce bourbier administratif. Donc là, on a plusieurs interlocuteurs, c'est super. Et on raconte Karen, qui est agente d'accueil à la CPAM de l'Isère et déléguée syndicale CGT, et qui nous dit qu'elle reçoit des sollicitations d'usagers et d'usagères qui sont perdus. Et Karen, elle nous dit « Depuis quelque temps, les personnes qui vont à la CAF et n'ont pas de numéro de sécurité sociale définitive viennent nous voir. C'est facile, on est en face géographiquement, on leur explique les démarches, mais c'est long et pas toujours simple. » Bref, en vrai, de ce qu'on peut retenir de tous ces témoignages, c'est que ça rend extrêmement difficile, voire impossible pour plusieurs dizaines de milliers de personnes d'avoir accès aux droits sociaux, qui sont, on le rappelle, un droit en France, et que cette course toujours plus rapide vers la dématérialisation, voire la privatisation des services publics, se fait toujours au détriment des personnes les plus précaires et les plus fragiles.
Et oui, une fois encore, on dématérialise tout, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Bizarrement, ce sont les étrangers qui n'arrivent plus à se connecter parce qu'ils n'ont pas le même numéro de sécu que nous. Enfin bref, on va changer de sujet et parler un petit peu de langage et d'imaginaire. Vous l'avez peut-être entendu dans la semaine, mais le Robert a intégré à son dictionnaire en ligne le pronom « Yel » et ses déclinaisons.
Le Robert.
Ouais. Hein. Le dico.
Ah.
Le fameux dico.
Le fameux Robert.
Voilà, il y a le Larousse, il y a le Robert. Voilà. C'était pas de Larousse, du coup.
Non, parce que chez moi, il y a le René aussi.
Ah, mais rien à voir avec Robert Ménard, je te rassure. C'est autre chose. En tout cas, ce fameux Robert a intégré Yel et ses déclinaisons, donc dans son dictionnaire en livre. En ligne, et en livre, mais pas encore publié, du coup. On y retrouve donc cette définition. Pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre, et tout ça c'est précédé de la mention rare. Cet ajout est expliqué par les personnes en charge du dictionnaire. En effet, ils constatent un usage de plus en plus fréquent du pronom et précisent malgré tout qu'il reste encore à ce jour peu courant. Bref, c'est un travail de dictionnaire plus tout ce qu'il y a de plus classique, ils voient l'arrivée d'un nouveau mot et ils viennent nous l'expliquer. Si on en parle ce soir, c'est que face à cette nouvelle, le clan conservateur nous a gratifié d'une levée de bouclier. Alors par exemple, on a eu François Jolivert, je ne le connaissais pas, mais il est sympa, député LREM, qui s'est fendu d'un tweet que je vais vous citer tout de suite. Le petit Robert, dictionnaire que l'on pensait être une référence, vient d'intégrer sur son site les mots Yel et les déclinaisons. Ses auteurs sont donc les militants d'une cause qui n'a rien de français. Accrochez-vous bien. 2 points. Le hashtag wokisme. J'ai écrit à l'Académie française, hashtag petit Robert. Le tout accompagné d'une copie d'un courrier adressé à l'Académie où il leur demande leur opinion sur la question parce que monsieur, a priori, n'en a pas encore tout à fait une. A noter quand même, on va le souligner, que ce tweet comporte sans scrupule le hashtag wokisme, qui est un mot qui n'existe pas et qui ne correspond finalement à rien. Bref, par la suite, c'est notre ami Jean-Michel Muche-Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui se fendra d'un commentaire très avisé en nous éclairant de sa science et nous dit que l'on ne peut triturer ainsi la langue française. On est très content de ton opinion, mais on s'en tamponne et sans chercher trop loin, tu devrais pouvoir trouver mieux à faire quand on voit l'état de l'éducation nationale dont tu as la charge. Apparemment, le problème serait que Yel serait principalement utilisé dans les milieux militants. Et donc, il n'aurait pas sa place dans le dico, parce que ce dernier devrait rendre compte de la langue commune et courante. Ça, c'est ce que disent les réac. On va rapidement démonter cette sottise en se rappelant que le dictionnaire, c'est quand même un énorme livre qui contient énormément de mots. Et en l'occurrence, selon les éditions, on pourrait tabler sur à peu près 60 000. Sauf qu'il y a aussi des gens, des linguistes qui s'intéressent à savoir comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on pense, et qui nous disent disent que le langage usuel, il, avec 600 mots, à peu près, on comprend plus de 90% des textes. Donc si on fait le calcul, c'est-à-dire que le dico, finalement, c'est 99% de mots peu communs. Et c'est tant mieux, parce que c'est à ça que ça sert finalement, c'est à connaître le sens d'un mot inconnu. Seulement, là, la bourgeoisie, elle, elle voudrait y voir que ses mots à elle, celles qu'elle maîtrise, pas ceux des autres. Mais est avis que sous ce brassage d'air de la droite se cache bien plus que qu'une incompréhension des questions de genre. Il s'agit surtout de garder la mainmise sur le langage. Seulement voilà, le langage c'est évidemment le moyen d'expression le plus utilisé, mais c'est surtout et avant tout notre outil de pensée. Et s'approprier le langage, c'est surtout maîtriser l'imaginaire, car nous ne pouvons pas penser sans les mots. Et c'est bien là le tour de force des dominants qui contrôlent la culture. En agissant sur le langage, ils définissent nos espaces de pensée. D'une part, en adoucissant le néolibéralisme et en l'élargissant dans nos esprits. Et d'autre part, en limitant notre capacité à penser dans un autre cadre. Par exemple, depuis l'arrivée des écolos aux manettes de la ville et de la métropole, il n'y a plus d'expulsion ni de campants ni de squats. Si, si, je vous jure. Encore les politiques et les médias locaux, il n'y a eu aucune expulsion. En revanche, de nombreuses évacuations ont été menées. S'il s'agit dans les faits de la même chose, dans les faits, c'est-à-dire que les personnes ont vécu des expulsions, ont été chassées du lieu où elles vivaient, le mot « évacuation » n'est pas exactement dans le même champ sémantique que celui d'expulsion. Il renvoie souvent à la protection des personnes. On dit « évacuer » quand un village, par exemple, ou une ville d'ailleurs, est menacée par des événements naturels. Pardon. Alors que l'expulsion, elle, fait appel dans nos esprits à plus de violence et surtout à une action menée contre la volonté des gens. Le Larousse, comme ça on aura parlé des deux dico, définit d'ailleurs le terme comme l'action de chasser quelqu'un. Mais petit à petit, y compris dans certains milieux militants, le mot « évacuation » prend insidieusement la place d'expulsion pour les campements, squats et autres bidonvilles. Alors comment penser le réel si les mots que nous utilisons nous sont imposés par d'autres, non pas pour plus de précision, mais bien pour enclaver notre imaginaire ? D'autant plus qu'il est extrêmement difficile de lutter contre ces mécaniques. Nous sommes abreuvés quotidiennement de termes trompeurs qui ont perdu leur sens pour être asservis aux besoins des néolibéraux. Et chacun et chacune d'entre nous en intègre certains dans nos vocabulaires sans même s'en rendre compte. Car être sans cesse vigilant et vigilante à chaque mot est d'une part épuisant et d'autre part impossible. Mais la lutte contre le capitalisme ne peut se faire sans la capacité à imaginer le monde autrement. Alors il me semble que nous devrions prêter attention le plus possible au sens des mots et pourquoi pas s'autoriser à faire remarquer à nos camarades quand la langue capitaliste s'invite dans leurs propos.
Merci pour cette très bonne intervention résiliente.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et oui, fait rarissime aux États-Unis, des employés de la société américaine Activision Blizzard ont débrayé mardi après de nombreuses accusations d'abus sexuels au sein du géant du jeu vidéo. Ils et elles dénoncent la complaisance de leur patron, Bobby Kotick, et les dérives d'un milieu sexiste. Alors bon, on dit le monde du jeu vidéo n'est pas exempt de scandales sexuels et sexistes, ça veut dire qu'en vrai, il y en a partout. Et donc la société américaine Activision Blizzard, notamment à l'origine des célèbres jeux Call of Duty et World of Warcraft, accumule les accusations d'agressions sexuelles et même de viols parmi ses salariés. Au point que plus de 150 employés de la firme ont manifesté mardi 16 novembre devant le siège de l'éditeur de jeux vidéo pour appeler à la démission de leur patron, donc Bobby Kotick. Alors, l'ABK Workers Alliance, le syndicat d'employés du groupe, a publié le tweet suivant avec des photos du rassemblement. Vous verrez qu'on vous cite beaucoup de tweets dans cette émission. Nous ne serons pas réduits au silence tant que Bobby Kotick n'aura pas été remplacé et nous continuons à demander qu'un audit indépendant ait lieu et que l'organisation soit choisie par les employés. Nous organisons une grève aujourd'hui. C'est un tweet très clair. Les débrayages sont rarissimes dans les grandes entreprises technologiques aux États-Unis. Mais la multiplication des accusations a eu raison de la patience des employés. D'anciennes salariées dénoncent unanimement les dérives d'un milieu essentiellement masculin, juvénile et sexiste. Depuis l'ouverture d'une enquête de la justice californienne, Activision Blizzard a reçu plus de 500 signalements de cas de harcèlement, d'agressions sexuelles et de discrimination. Le mania du jeu vidéo bientôt game over Après une enquête de la justice californienne concernant plusieurs plaintes pour harcèlement dans la société, Bobby Kotick est à présent confronté aux révélations du Wall Street Journal. Dans son article, le quotidien économique américain dévoile que le PDG a dissimulé des plaintes pour harcèlement au directoire de la firme. Le patron connaissait depuis des années les rapports internes sur les comportements abusifs, y compris sur une accusation de viol, mais n'a pas partagé ces informations avec le conseil d'administration. D'après le journal, il aurait même tenté d'acheter le silence de la collaboratrice dénonçant un viol. Pire, Bobby Kotick a lui-même fait l'objet d'une accusation de harcèlement par une de ses assistantes en 2006, dénonciation à la suite de laquelle il l'avait menacée de mort dans un message laissé sur son répondeur. Le patron s'était excusé, il y a 16 ans, pour les faits et avait reconnu un « message hyperbolique et inapproprié » à plaider un porte-parole de l'éditeur du jeu vidéo. Bon, on voit bien le foutage de gueule et surtout le pouvoir de rester en place et de silencier la parole d'autres personnes. Plus récemment, fin juillet, le créateur du blockbuster Call of Duty a été accusé cette fois de favoriser une culture du harcèlement sexiste et toxique et d'inégalité de carrière par une autorité californienne. Une plainte a été déposée devant un tribunal de Los Angeles. Devant de telles accusations, la société a réagi. Un porte-parole du groupe a affirmé à l'AFP que l'article du Wall Street Journal avait donné une vision trompeuse d'Activision Blizzard et de son patron. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il a dit « Des mesures ont été prises pour les cas de harcèlement sexuel qui ont été portées à son attention. » Bon. Dans la tournante, l'intéressé est lui aussi monté au créneau. « Tous ceux qui doutent de ma détermination à faire de l'entreprise le lieu de travail le plus accueillant et le plus inclusif ne se rendent pas compte à quel point c'est important pour moi », s'est défendu Bobby Kotick dans un message vidéo diffusé en interne avant la manifestation. Attends, mais là, si on veut faire des analyses linguistiques, quand même, on peut s'occuper de cette phrase. Si c'est important pour lui, pauvre chouchou, c'est que forcément c'est vrai et qu'à aucun moment le patriarcat ne l'a traversé, visiblement. En attendant que la justice se prononce, Activision Blizzard a souffert en bourse perdant plus de 6,09%, alors j'imagine que c'est beaucoup, après la publication de l'article du Wall Street Journal. Est-ce finalement l'argument économique qui aura raison de l'avenir de Bobby Kotick ? Est-ce une victoire du capitalisme sur lui-même ? On ne sait pas, en tout cas on sait que depuis le mouvement MeToo, on est quand même contente que ces histoires sortent, on est quand même toujours aussi effaré de voir à quel point c'est compliqué de les faire sortir, à quel point la parole des premières concernées est toujours invisibilisée et qu'il faut monter des grèves, des manifestations et qu'encore là, c'est difficile de déloger des personnes dont on sait qu'elles sont des agresseuses.
Et par ailleurs, c'est aussi difficile de se dire que l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, c'est la plus lourde du divertissement et de se dire qu'elle est encore dirigée par... On va garder les jolis mots, mais par des personnes comme le monsieur dont on vient de parler, et que peut-être il y aurait des avancées à faire à cet endroit-là aussi.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Alors, il va se passer plein de choses ce week-end. Déjà, on peut rappeler ce qui a été dit au début, que donc demain à 14h à la place des Terreaux, il y a un rassemblement pour manifester, dans le cadre de la journée des droits de l'enfant, donc pour manifester contre ces 123 enfants à la rue.
Et d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un premier rendez-vous à 10h du matin au croisement de la rue Néré et du jardin, des pentes en haut, des pentes de la Croix-Rousse, avec notamment pour soutenir les mineurs isolés laissés à la rue depuis le début de l'été. Ils sont une trentaine.
Et aussi demain, au Bal des Ardents, donc à 19h, il y a une rencontre avec Karazina et Karim Amou, à l'occasion de la sortie de leur livre qui s'appelle « Fear of a Female Planet ». Alors, ça parle de... Ah oui, donc ça retrace un témoignage de l'histoire d'un groupe, d'un groupe de musique, donc qui s'appelle Straight Royer.
Je crois que c'est du punk et du rap en même temps, une fusion du début des années 90.
Quelque chose comme ça.
Ça a l'air bien.
Et ça a l'air super, voilà.
Il y a aussi un rassemblement à 18h pour la journée du souvenir trans, mais alors je ne sais plus où c'est.
C'est Place de la Comédia.
Place de la Comédie, ça veut dire Hôtel de Comédie. Ville à Lyon, si jamais vous avez un doute, et c'est à 18h demain. La journée du souvenir trans. Vous pouvez même aller à ce rassemblement et après aller au Bal des Ardents à 19h.
Et il y a vraiment beaucoup de rendez-vous, puisque c'est le week-end qui célèbre les 3 ans du mouvement des Gilets jaunes. Donc à ça, rendez-vous à 14h au Palais des 24 colonnes. L'appel cible très 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 large, vous pouvez le retrouver sur Rébellion. Donc c'est les Gilets jaunes de Lyon et environ qui invitent à ce rendez-vous. Ils invitent l'ensemble des personnes qui se sentiront concernées. Je vous laisserai revoir tout ça sur Rébellion. Le texte est très très long et pas inintéressant. Et puis il y a également à 15h un rendez-vous à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griff, pour une rencontre avec des Soudanaises et des Soudanais sur une thématique qui est celle-ci: la révolution reprend de plus belle au Soudan, rencontre avec les activistes soudanaises et soudanais de Lyon. On en avait pas mal parlé en 2019 de ces insurrections qui avaient fait trembler le dictateur El-Béchir, qui régnait depuis 30 ans sur le pays. Il y a eu des gouvernements de transition, l'armée toujours au pouvoir, et depuis 3 semaines, donc, je fais court, les Soudanaises et Soudanais sont parvenus à organiser des manifestations de masse de plusieurs millions de personnes à travers toutes les villes et les villages du Soudan, à organiser également une grève générale, à mettre en place une autogestion par quartier pour organiser la mobilisation et à s'entraider pour faire face au blocage de l'économie. Voilà, alors là-dedans, évidemment, la répression est féroce. L'armée tire à balles réelles sur les manifestantes et les manifestants qui continuent, en tout cas pour le moment, à descendre dans la rue. Les questions qui se seront posées donc par les activistes soudanaises et soudanais qui seront demain à Lyon à 15h à l'Amicale, c'est notamment comment s'organise concrètement la révolution sur le terrain, comment soutenir les révolutionnaires depuis l'étranger, où en est le rapport de force géopolitique et quel avenir peut-on imaginer pour la révolution soudanaise à ce stade. Et ça se marre pas mal dans les studios.
Mais rien à voir avec ce
rien
que
à
tu
voir
disais.
Avec le Soudan.
Non, c'est pas drôle.
Il y a quelqu'un qui a pété.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire AK Cagnos du vendredi.
Alors, ACAB, ça veut dire quoi ?
Eh oui, on a eu la chance encore d'avoir des appels pendant cette émission et heureusement, une auditrice nous a donné un ACAB. Alors, ACAB, aujourd'hui, ça veut dire « Les allocs connectés amènent à la bidouille ».
Ah, et a-t-on eu d'autres auditrices, auditeurs qui nous ont appelés ?
Malheureusement non.
Malheureusement. Mais peut-être que oui, qu'on n'a pas réussi à décrocher. N'hésitez pas à continuer et à nous appeler
au 04 78 39 18 15, même si il est 19h58, c'est-à-dire qu'il est dans 1 minute 30, ça sera plus du tout nous, et même là bientôt c'est plus du tout nous, ça va être les bandes continues, et après ça il y a une émission de c'est quoi déjà, la valse, la musette,
jazz manouche,
du jazz manouche avec du fer dedans, c'est Noise Pollution et ça arrive dans un instant sur les ondes de Radio Canus 102.2. Bonne soirée à toutes et à tous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.